Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Après la naissance de Jésus à Bethléem et la visite des bergers, l'évangile de Matthieu est le seul à nous rapporter une autre visite très célèbre, celle des mages venus d'Orient. Dans notre liturgie latine, cette visite des mages est célébrée lors de la fête de l'Épiphanie le 6 janvier. Épiphanie, mot d'origine grecque, signifie « manifestation du Seigneur ». Nous allons aujourd'hui relire ce récit que nous croyons bien connaître et qui a tant nourri les traditions et l'iconographie du temps de Noël. Mais sa lecture narrative attentive va peut-être nous réserver quelques surprises. Nous lirons ce texte dans la Bible de Jérusalem, au chapitre 2 de Matthieu, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda. » car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Ce qui surprend quand on relit attentivement ce passage d'évangile si connu, c'est que Matthieu ne parle que de mages venus d'Orient, sans dire tout ce que nous croyons savoir sur eux. Il ne dit pas qu'ils sont trois, ni qu'ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar, ni même qu'ils sont rois. Que sait-on, père Alain, sur le contexte de la rédaction de ce texte et sur son historicité ? Qui sont ces mystérieux mages venus d'Orient ?
Alors vous avez évoqué les noms des personnages, vous savez comme moi, qui ne sont pas dans l'écriture. Donc ça ne peut venir que de légendes. C'est-à-dire donc que le fait qu'on leur ait donné des noms, le fait qu'on les ait qualifiés aussi comme portant des objets sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, tout cela évidemment c'est une légende qui s'est gonflée. Mais ce qu'on peut dire peut-être avant d'aller beaucoup plus loin, j'aurais envie de rappeler quand même Saint-Luc, on a eu l'occasion de l'aborder, Saint Luc regarde le mystère de Jésus à travers le visage de Marie, sa mère. Ici, avec Matthieu, c'est à travers le visage de Joseph. Et donc, on ne le perçoit pas trop ici, parce que ce sera pour, dans d'autres passages, mais c'est une façon de souligner que les récits d'enfance, il n'y en a que deux, hein, c'est important peut-être de nous le redire. C'est-à-dire, on a eu l'occasion d'évoquer les commencements à plusieurs reprises. Pour les évangélistes, beaucoup, ça commence avec le baptême. Ici, il y a une espèce de plongée dans le commencement antérieur, et Jean ira encore plus loin, comme vous le savez, et c'est le commencement dans la naissance de Jésus, avec deux visions différentes, celle de Luc, que nous avons évoquée, ou que nous évoquons, et celle de Matthieu, face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, il ne faut pas nous étonner, il y a un côté légendaire, c'est une approche assez étonnante, mais en même temps, il ne faut pas nous laisser tromper, il ne faut pas nous égarer sur l'interprétation. Il y a une grande profondeur théologique dans ces récits que nous allons pouvoir déployer un petit peu, très différente d'ailleurs, puisque Joseph sera le personnage central de ce cheminement de Jésus dans son enfance, alors que c'était Marie dans Saint-Luc, mais avec évidemment beaucoup de richesse, comme nous allons pouvoir le montrer ensemble.
Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à se poser la question de l'existence de ces mages ? Il y a quelque chose qui est dit un peu dans la suite du texte, c'est le fait qu'ils s'intéressaient aux astres, qui pouvaient être des astronomes venus de Babylone, on a dit beaucoup de choses sur eux.
Toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Vous savez, les récits d'enfance, dans les grandes traditions, on pourrait dire littéraires et historiques, ce sont des phénomènes qui sont classiques. Les grands personnages ont toujours nécessité de remonter à leur enfance. C'est-à-dire, quand on a un personnage, un saint par exemple, on va avoir besoin de savoir comment il est né, qu'est-ce qu'il a fait quand il était petit. Ça fait partie, si vous voulez, c'est un genre littéraire comme si, pour connaître quelqu'un, il fallait pouvoir remonter à son enfance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'historique, hein. Je crois que là-dessus, il faut être un peu vigilant. Mais il y a une part de légende, certainement, mais surtout, au cœur de cette légende et de cet événement que l'on ne peut pas mettre en question, il y a une ouverture théologique très très forte et très très riche que nous allons pouvoir déployer ensemble.
Alors, nous allons rentrer effectivement dans le texte et donc à l'arrivée des mages à Jérusalem, ils tiennent des propos d'ailleurs qui vont un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître pour lui rendre hommage. Ils précisent qu'ils ont vu son astre se lever. Comment on peut décrypter ces paroles un peu mystérieuses ?
Alors, c'est vrai que quand on lit ces passages, quand on les médite, on est frappé par plusieurs phénomènes. D'une part, peut-être le plus important, c'est que, alors que Matthieu est l'évangéliste le plus juif de tous les évangélistes, celui qui est le plus marqué par la tradition juive, il est aussi celui qui ouvre le plus sur l'universel. C'est assez paradoxal, alors qu'on ne le connaît surtout que par son enracinement juif, on pourrait dire. Il a vécu, il a prêché pour des juifs, il a vécu avec des juifs, il était juif lui-même. Et là, tout à coup, il nous donne dans le récit de commencement une ouverture extraordinaire. Je crois qu'il y a une dimension à la fois théologique et historique qu'on pourrait commenter un petit peu.
Alors, d'abord, notez peut-être que le roi Hérode, il est un peu surpris, et le texte dit qu'il est ému, il est troublé par l'arrivée de ses mages, il convoque les scribes du peuple, les grands prêtres, etc., pour savoir où doit naître ce Christ dont il parle. C'est-à-dire, finalement, le Messie. La Tob emploie le terme de Messie plutôt que Christ. Comment on peut comprendre cette réaction ? De qui a-t-il peur, Hérode ?
Avant même de se poser cette question, il faut peut-être se rappeler quand même une chose. Ils viennent de l'Orient, ils ont une étoile qui les guide, et à un moment donné, l'étoile leur échappe. C'est-à-dire, alors ça aussi c'est un point avant même, et on dira un petit mot d'Hérode après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire au fond que ce sont des hommes savants qui sont en quête du mystère de Dieu, et qui le font comme ça se faisait beaucoup dans l'Antiquité, peut-être encore aujourd'hui beaucoup dans les milieux populaires avec cette idée que les astres sont des lieux d'interprétation de la vie des hommes. Je suis sûr que vous avez dû consulter quelquefois votre parcours avec les mois qui se déploient. Ça veut dire que...
L'horoscope.
Voilà. Et ici, c'était au-delà de l'horoscope, c'était des savants. Ils scrutaient le ciel. Ils pensaient que le ciel, peut-être c'est pas si faux, hein, peut leur donner un éclairage sur la vie. Et à un moment donné, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là, c'est-à-dire un événement nouveau, un astre nouveau qui surgissait et qui les invitait à marcher, à se dire « on va le suivre parce qu'on est dans notre ligne de voyage, dans notre ligne de recherche ». Et ils ont fait cette longue route, hein, même si elle est très raccourcie dans le récit, et à un moment donné, elle disparaît. Alors, cette disparition nous conduit, effectivement, ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont obligés de trouver d'autres moyens, puisque leur astre a disparu, et ils vont essayer de s'enquérir auprès du pouvoir local, c'est-à-dire c'est Hérode, et des autorités juives. Voilà comment ça se passe, si vous voulez, comment c'est provoqué.
Alors, justement, les prêtres et les scribes, ils n'ont pas l'air si étonnés que ça, puisque ça leur rappelle quelque chose, ça évoque des références pour eux, et ils vont jusqu'à citer un verset du prophète Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata et Bethléem, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis. Alors, ils ont l'air d'être quand même un peu au courant de ce qui amène les mages à Jérusalem, quand même.
Vous n'êtes pas sans avoir remarqué, Pierre-Yves, que dans l'évangile de Matthieu, les récits d'enfance, c'est là que l'on a le plus de citations des Écritures. On en a aussi après, mais il y a toute une série de citations d'Écritures, comme si on avait besoin de s'enraciner dans le passé pour que ce grand mystère, au fond, de la venue du Fils de Dieu s'inscrivent dans une logique, on pourrait dire, à la fois théologique et mystique. Et donc, le prophète Michée, de fait, a annoncé que ça se passerait à Bethléem, pourtant une petite ville de rien du tout. Et donc, les Juifs qui sont là, les autorités juives, elles savent, mais elles ne peuvent pas aller plus loin. Ce qui est le paradoxe, au fond. Hérode, c'est l'homme du pouvoir. À la limite, il pourrait se dire, ben oui... Il y a un envoyé de Dieu qui est là, on va aller le rejoindre, comme les Juifs qui sont là. Et on touche du doigt le mystère, au fond, d'un certain échec du judaïsme, en fait, tel que Matthieu le présente. C'est-à-dire, ils sont capables de décrire l'événement, mais ils ne sont pas capables de le vivre jusqu'au bout.
Alors, ils arrivent enfin à l'endroit désigné, là où ils s'arrêtent. Et là, il y a cette scène extraordinairement connu, qui a inspiré tous les peintres. L'astre vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Entrant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils lui rendirent hommage et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, c'est peut-être là que vient le chiffre 3. Il y a 3 cadeaux, il y a 3 mages, peut-être. Bon, c'est une interprétation. Mais c'est quoi ces cadeaux? Pourquoi ces cadeaux? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une signification symbolique derrière ces 3 présents?
Effectivement, le fait qu'il y ait 3 cadeaux ne veut pas dire qu'ils étaient 3.
Non, pas forcément, mais ça pourrait.
Ils étaient peut-être plus nombreux, hein, mais il y en a 3 qui se détachent. Et ce qui est souligné, c'est moins leur identité, leur nom, que ce qu'ils offrent, c'est-à-dire, si vous regardez bien, ils offrent de l'or, qui est le signe de la richesse et qui renvoie au Jésus roi. Ils offrent de l'encens, qui est le signe du culte, Jésus prêtre. Et ils offrent de la myrrhe, qui est l'indice de l'immortalité, c'est-à-dire, au fond, on a une espèce de petite synthèse de la christologie du Christ à travers cette offrande qui est faite et que l'auteur Matthieu a voulu nous faire toucher du doigt à travers quelque chose de très, très matériel d'une certaine façon, mais qui en même temps est très spirituel. Et c'est véritablement quelque chose qui est assez émouvant. On évoquait ça au début. Ces rois ces hommes sont des chercheurs de Dieu. Et ça veut dire qu'ils vont au bout de leur quête. Ils sont allés au bout de leur quête. Et là, à un moment donné, quand on cherche Dieu, on ne peut pas le trouver uniquement par la science, par la connaissance, par les études. Il faut dépasser cette étape. Et cette étape, c'est justement les Écritures qui leur sont donnés à la fois par ces Juifs qui n'y croient pas et par Hérode qui les entend mais qui lui non plus ne les accepte pas parce que justement c'est l'affrontement. On le sent bien, entre deux pouvoirs, le pouvoir terrestre avec sa puissance, avec tout ce qu'il a, et puis le judaïsme un peu fatigué, qui a du mal à accueillir ce Jésus, et ces trois hommes deviennent au fond des figures magnifiques, au fond du salut, et cette beauté de la démarche, elle est extraordinaire. Et on comprend que les artistes, les peintres, les écrivains aient beaucoup épilogué sur ce récit. C'est magnifique, c'est beau, c'est à la fois la rencontre entre l'intelligence et la foi.
Ce qui est étonnant, c'est que là, c'est vous, un exégète, qui interprétez ces trois présents. Mais ni les mages, ni l'évangéliste ne le font. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour laisser, effectivement, le mystère se développer, les personnes s'interroger?
Mais vous êtes assez familier de la lecture pour savoir que lire, c'est toujours aller au-delà des textes. Et donc, cette dimension... Elle est contenue un peu dans les trois offrandes qui sont faites, puisqu'elle correspond à ce que l'Église a mis derrière ces trois réalités-là, autour du Christ, au fond, le Seigneur, celui qui est encensé, celui qui est immortel, etc. Et donc, c'est tout ça qui est dit. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas dans de l'histoire, nous sommes dans un mélange de légendes et d'histoire, avec un fond historique, mais une dimension surtout théologique, qui veut nous dire... Même quand on va rentrer dans l'évangile de Matthieu, ça c'est important. Parce que s'il n'y avait pas ça, nous aurions du mal à comprendre l'universel du Christ. Tout est donné dans l'universalité. Et l'enfance, c'est fondamental. Car ce petit enfant qu'ils viennent vénérer, c'est au fond ce que Jésus lui-même va reprendre quand il dira « Laissez venir à moi les petits-enfants ». La petitesse, les petits qui sont les grands du royaume... Tout est donné, d'une certaine manière, dans ce récit tellement, tellement beau et tellement à la fois concis et ouvert pour l'entrée de Jésus dans sa vraie mission après le baptême. Mais nous sommes déjà dans un des commencements. Vous vous souvenez que nous avions échangé sur les commencements en disant « il y a beaucoup de commencements, c'en est un, là ».
Alors, on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour célébrer l'épiphanie aujourd'hui?
Moi, je penserais que ça a une dimension peut-être qui nous touche les uns ou les autres dans notre démarche de croyant. Je crois que le fait de faire un lien entre cette démarche des savants qui quêtent, qui guettaient dans le ciel les signes des temps. Tout à l'heure, vous évoquiez, avant que nous fassions l'émission, le travail d'une femme qui ouvre des chemins intéressants à travers la science. C'est intéressant de se dire... Or ici, c'est un peu ça que nous trouvons. C'est-à-dire, ces savants, ils sont allés loin. La science nous aide, elle nous est précieuse. Mais à un moment donné, il faut avoir l'humilité de reconnaître que la science n'a pas la capacité de résoudre le grand mystère de Dieu. Et il faut que les Écritures viennent à notre secours pour nous y conduire.
C'est vrai que la science essaie plutôt de répondre à la question du comment, voilà. Pas du pourquoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Est-ce qu'on pourrait penser que le fait que ces trois présents ne soient pas explicités dans le texte voudrait dire que les premières communautés chrétiennes qui ont reçu cet évangile le savaient ou que ça leur était expliqué dans des homélies?
C'est pas certain. Je pense que c'est la tradition chrétienne qui va peut-être, avec des appuis possibles, des pratiques, qui va trouver que ça correspond bien au triple titre du Christ, enfin la titulature du Christ, et ça devient, si vous voulez, une ouverture théologique, et pas simplement légendaire ou peu importante. Non, ça a du sens, mais c'est à nous de le donner. Chacun peut donner le sens qu'il a envie d'exprimer.
Merci. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci donc, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.